le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et aujourd'hui nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et on va parler de plusieurs sujets qui concernent les femmes. Tout d'abord, les députés et les sénateurs français et françaises ont voté pour l'inscription du droit à l'avortement pour la Constitution. La France est désormais le premier pays au monde qui va inscrire l'IVG dans sa Constitution. C'est donc un moment historique pour les droits des femmes et des personnes pouvant être enceintes dans le monde. Pour nous, la constitutionnalisation de l'IVG est un symbole important vis-à-vis des pays qui restreignent ou criminalisent le droit à l'avortement. En consacrant le droit à l'avortement, la France affirme sa volonté qu'elle ne reviendra pas dessus, garantit que jamais ce droit ne sera remis en cause et qu'aucune répression ne sera possible. Nous considérons que ce texte est un message fort pour toutes les femmes, les filles et toutes les personnes pouvant être enceintes dans le monde. Il constitue un symbole important vis-à-vis des pays, encore une fois, qui restreignent le droit à l'avortement, comme par exemple les États-Unis, où la Cour suprême a annulé en 2022 l'arrêt Roe versus Wade, pierre angulaire du droit à l'avortement et de la liberté des femmes à disposer de leur corps dans tout le pays et qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral depuis 1973. Cette décision est un retour en arrière tragique qui pourrait inspirer d'autres gouvernements opposés à la protection de ce droit, mettant en péril la vie de millions de femmes, de filles et des personnes pouvant être enceintes. En France, plusieurs parlementaires de différents partis politiques avaient réagi à la décision de la Cour suprême des États-Unis en demandant l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française, un acte fort qui permet de consacrer ce droit fondamental. Car effectivement, l'avortement est un droit fondamental. Toute personne dispose du droit à la vie dès la naissance, du droit au respect de la vie privée, du droit à la santé, du droit à l'égalité et à une protection égale devant la loi, sans discrimination, ainsi que du droit de ne pas subir de violence, de discrimination, d'actes de torture ou d'autres formes de mauvais traitements. Amnesty International reconnaît que le droit à un avortement sécurisé fait partie des éléments essentiels permettant de garantir la protection de chacun de ces droits. Les droits humains sont universels, indissociables et intimement liés. Cela signifie que les droits sexuels et reproductifs, notamment le droit à l'avortement, sont fondamentaux pour la réalisation pleine et entière de tous les autres droits. Alors que les députés français et françaises ont approuvé mercredi 24 janvier la rédaction suivante de l'article 34, je cite « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse », nous regrettons cette formulation qui n'inscrit pas le droit mais la liberté garantie d'avoir accès à l'avortement. Parce que c'est bien de droit qu'il s'agit et c'est ce droit qu'il faut consacrer. Nous aurions donc préféré une rédaction consacrant le droit d'avorter qui aurait permis de contraindre l'État à mettre les moyens pour garantir ce droit à celle de liberté qui renvoie finalement aux conditions de l'exercice de celle-ci. Par ailleurs, à Amnesty International, on privilégie une approche non limitative pour toutes les personnes pouvant être enceintes. Si le texte est définitivement adopté, la France sera donc le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans son arsenal constitutionnel. Un garde-fou indispensable, là où encore en Europe, ce droit est toujours menacé, en témoigne le cas de la Pologne, où il est toujours interdit d'avorter, sauf en cas de viol. De nombreuses personnes qui ont manifesté pour s'opposer à ces législations liberticides ont été violemment réprimées par la police. Des pays comme Malte ou Andorre criminalisent toujours l'avortement. Après l'adoption de ce texte par les députés et le Sénat, la réforme devra être débattue et votée. Et nous suivrons avec attention l'évolution de ce texte. Si l'avortement est finalement inscrit dans la loi fondamentale, nous resterons vigilants et vigilantes à l'effectivité ou à la non-discrimination dans l'accès à ce droit. En Europe cependant, le combat continue. Les associations féministes et les défenseurs et défenseuses des droits humains continuent d'être la cible de poursuites pour avoir défendu le droit à l'avortement. Après 3 ans de poursuites judiciaires, la militante Vanessa Mendoza-Cortez en Andorre vient d'être acquittée. Elle était poursuivie pour avoir dénoncé l'interdiction totale du droit à l'avortement en Andorre. Et nous soutenons également depuis plusieurs années Justynia Wierdrińska en Pologne, condamnée pour avoir aidé une femme à avorter. Ces défenseuses des droits à l'avortement sont harcelées par les autorités de leur pays simplement pour avoir défendu ce droit fondamental. Aux États-Unis, c'est encore autre chose. Un an après la décision de la Cour suprême Parce que le 24 juin 2022, la Cour suprême avait annulé l'arrêt Roe v. Wade qui faisait du droit à l'avortement un droit constitutionnel. Donc là, on est à peu près un an après, un petit peu plus, et il y a un tiers des femmes et des filles en âge de procréer qui vit dans un état où l'avortement est totalement inaccessible ou presque aux États-Unis. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, il faut un petit peu comprendre comment ça s'est passé. En 1973, la Cour suprême des États-Unis statuait que l'avortement était légal en rendant l'arrêt historique Roe v. Wade. Depuis ce moment-là, les militants et les militantes, ainsi que les responsables politiques opposés à l'avortement, se sont mobilisés en vue de faire annuler cette décision. Et aujourd'hui, on assiste finalement aux fruits de ce travail. Les attaques contre l'arrêt rendu dans l'affaire Roe se sont intensifiées lorsque le président Donald Trump a nommé deux nouveaux juges à la Cour suprême, tous deux ayant exprimé des opinions hostiles à l'avortement. Les conséquences ne se sont pas faites attendre. En 2022, la Cour suprême a donc prononcé l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade. Au-delà de l'annulation de l'arrêt et de l'interdiction de l'avortement dans de nombreux États, il faut savoir que la loi n'est pas le seul facteur qui détermine si les femmes peuvent avoir accès à l'avortement. Depuis 1973, les militants et les militantes anti-choix rognent également sur l'accès à l'avortement, notamment en érigeant des obstacles supplémentaires financiers ou logistiques, rendant ainsi cet accès difficile, voire impossible, même dans des États où l'avortement serait autorisé. Prenons l'Alabama par exemple. En mai 2022, le gouverneur de cet État a promulgué une loi draconienne permettant de condamner à la réclusion à perpétuité les médecins qui pratiquent des avortements. Pourtant, dans la pratique, l'avortement est déjà inaccessible pour de nombreuses femmes en Alabama. L'Institut Guttmacher a révélé qu'en 2014, 93% des comtés de l'Alabama ne disposaient pas de cliniques qui réalisent des avortements. Du coup, la plupart des habitants et des habitantes de l'Alabama doivent se rendre dans d'autres États pour avoir accès à l'avortement. Et même comme ça, la plupart des femmes n'ont pas les moyens de mettre un terme à leur grossesse. Parce que de toute façon, il n'y a pas assez de cliniques qui pratiquent l'avortement. Dans les 15 États les plus opposés à l'avortement, 66 des 79 cliniques qui pratiquaient l'avortement avaient été contraintes d'arrêter au 2 octobre 2022. Les 13 cliniques restantes sont toutes situées en Géorgie. En 2022, 6 États américains ne disposaient que d'une seule clinique pratiquant des IVG. 27 grandes villes des États-Unis et une grande partie de l'Amérique rurale sont des déserts médicaux en termes d'avortement. La plupart des habitants et des habitantes vivent à plus de 160 km d'un tel service. Avec l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade, certaines personnes doivent parcourir des milliers de kilomètres pour obtenir des soins en matière d'avortement et un climat de peur est délibérément instauré afin d'empêcher les femmes, les jeunes filles et toute personne susceptible de tomber enceinte de trouver des manières légales d'interrompre une grossesse. L'un des moyens pour les militants et militantes anti-choix de rayer de la carte totalement des services essentiels consiste notamment à réglementer de manière ciblée celles et ceux qui réalisent des avortements via les lois TRAP, Targeted Regulation of Abortion Providers. Il s'agit de critères d'enregistrement tatillon qui font qu'il est très difficile pour ces services de rester ouverts. Par exemple, les autorités de l'État peuvent préciser de quelle largeur doivent être les couloirs dans un bâtiment où les médecins pratiquent des avortements, la taille des places de parking ou la distance qui doit séparer ces locaux d'une école. Ces normes n'ont rien à voir avec la sécurité des patients et des patientes. En fait, ça vise à exercer une pression sur les services réalisant des avortements, tellement qu'ils sont finalement contraints de fermer. Du coup, depuis 2019, des centaines de nouvelles règles ont été introduites dans plusieurs États américains afin d'en limiter l'accès, incitant ainsi la Cour suprême à revenir sur l'arrêt Roe v. Wade. Introduit en 1973, cet arrêt reconnaît le droit des femmes à avorter tant que le fœtus n'est pas viable. Le Missouri souhaite poursuivre les médecins qui pratiquent l'IVG après 8 semaines de grossesse. La Géorgie l'interdit dès le premier battement du cœur du fœtus. L'Alabama totalement, y compris en cas de viol ou d'inceste. Au Texas, la loi de septembre 2021 interdit d'avorter dès 6 semaines de grossesse. À cette date, en fait, la plupart des personnes concernées ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Cette loi va même plus loin avec une disposition sans précédent en criminalisant toute personne qui aiderait une autre à avorter. Cela signifie que les centres de santé et leur personnel risquent d'être poursuivis en justice, tout comme les membres de la famille ou les amis. Selon l'Institut Guttmacher, à terme, 26 États sur 50 devraient interdire totalement ou restreindre très fortement l'accès à l'avortement. Et les lois anti-avortement ne se traduisent pas par une réduction ni une disparition des avortements, elles les rendent simplement plus dangereux. Lorsqu'ils sont pratiqués avec l'aide d'un ou une professionnelle de santé qualifiée dans de bonnes conditions d'hygiène, les avortements comptent parmi les actes médicaux disponibles les plus sûrs. Cependant, lorsqu'ils sont restreints ou criminalisés, les femmes sont contraintes de rechercher des moyens moins sûrs pour mettre un terme à leur grossesse. Les États où les lois sur l'avortement sont les plus sévères font partie de ceux où l'on constate des taux de mortalité maternelle et de pauvreté infantile les plus élevés. Dans le monde, on estime que 5 millions de femmes sont hospitalisées chaque année à la suite de complications liées à un avortement et environ 47 000 d'entre elles en meurent. Les États dotés des lois sur l'avortement les plus restrictives sont toujours ceux qui ont le plus de mortalité au niveau des femmes. Les femmes et les jeunes filles à faible revenu, notamment les adolescentes, les femmes racisées, migrantes, réfugiées, sont les plus durement touchées par les restrictions en matière d'avortement parce qu'il leur est plus difficile de s'acquitter de frais, de se rendre à l'étranger ou alors de s'absenter de leur travail tout simplement. Les Afro-Américaines ont 3 ou 4 fois plus de risques de mourir pendant leur grossesse ou leur accouchement que les femmes blanches aux États-Unis. Et cette inégalité risque fort de s'aggraver du fait des nouvelles lois qui rendent la grossesse plus dangereuse. Ces lois sont un coup dur aussi pour les personnes LGBTI+, dont les droits ont été gravement mis à mal sous le gouvernement Trump. Les personnes transgenres aux États-Unis sont déjà confrontées à de nombreux obstacles pour accéder à des services de santé en matière de procréation, et cette série de nouvelles lois ne fera que les exclure davantage. En plus de ces lois discriminantes, des groupes opposés aux droits fondamentaux continuent par ailleurs d'essayer de criminaliser l'avortement au moyen d'interdictions supplémentaires, de systèmes de primes pour dénoncer les personnes cherchant à interrompre leur grossesse, en entravant l'accès à l'avortement médicamenteux et en restreignant également l'information sur l'avortement. Malgré toutes ces attaques coordonnées et virulentes contre le droit à l'avortement, les Américains et les Américaines continuent de soutenir massivement l'accès à un avortement sûr et légal. Un sondage en 2022 révèle que les 2/3 des Américains et des Américaines pensent que l'avortement devrait être légal dans tout ou la plupart des cas, et 77% se sont opposés à l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade. Les législateurs qui imposent ces restrictions excessives à l'accès à l'avortement ne représentent donc pas du tout l'opinion de la majorité des Américains et des Américaines. Face à ces attaques contre le droit à l'avortement, de nombreux États ont d'ailleurs ajouté de nouvelles protections et des militants et des militantes à travers tout le pays continuent d'essayer de défendre leurs droits. Ces dernières années, les mesures de dépénalisation et de légalisation de l'avortement prises en Argentine, en Irlande, au Mexique et en Colombie ont constitué une énorme victoire pour la communauté internationale. Et il est clair que les États-Unis, à l'instar de certains pays d'Europe, tels que la Pologne, ne sont pas en phase avec les progrès qui ont été réalisés par le reste du monde en matière de protection des droits sexuels et reproductifs. La décision de la Cour suprême de supprimer le droit à l'avortement est un retour en arrière tragique. Les mobilisations se sont quand même poursuivies partout aux États-Unis, où des milliers de personnes ont pris part à des rassemblements pour demander aux États de mettre fin aux interdictions et de protéger le droit à l'avortement. Ailleurs, des citoyens et des citoyennes du monde entier continuent de faire entendre leur voix pour défendre les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Et en parlant de faire entendre sa voix, aujourd'hui, on est le 8 mars, et vous pouvez donc participer à plusieurs mobilisations, notamment à Montpellier. Et je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la grève féministe, puisque aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, il y a une grève féministe qui est proposée sur l'ensemble du territoire. Alors le principe de la grève féministe, c'est que les femmes et toutes les personnes qui le souhaitent finalement arrêtent toute leur activité professionnelle, toutes les tâches domestiques et toute consommation pour mettre la société à l'arrêt et démontrer que les femmes ne sont pas qu'une variable d'ajustement, mais bien un rouage essentiel de la société. Le but, c'est d'exposer les conséquences d'une journée sans femmes, revendiquer l'égalité des droits, notamment salariale et professionnelle, et lutter contre les discriminations et les violences fondées sur le genre. Alors, qu'est-ce qu'une violence basée sur le genre ? Alors, qu'est-ce que c'est une violence basée sur le genre? C'est tout simplement l'ensemble des actes de violence ou de discrimination qui sont dirigés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de son identité de genre. Elles englobent notamment les formes de violence physique, sexuelle et psychologique. Ces violences affectent les femmes et les filles de manière disproportionnée, mais aussi les minorités de genre. L'expression de violence fondée sur le genre permet de reconnaître explicitement les causes sociétales et non individuelles, et les impacts de cette violence qui nécessite des réponses globales. Que vous soyez travailleur, travailleuse, retraité, étudiant, étudiante ou sans emploi, nous vous encourageons à rejoindre les appels à la grève, grossir les rangs des manifestations, montrer votre solidarité et revendiquer la justice de genre dans le cadre du travail non rémunéré et dans le travail domestique, comme les tâches ménagères, les courses, la cuisine, etc. Pour faire un petit peu d'histoire, cette grève féministe, elle vient d'Espagne. En 2018, une grève féministe en Espagne avait donné lieu à un arrêt du travail de 2 heures, observé par près de 5,9 millions de travailleuses et travailleurs dans tout le pays, selon les deux principaux syndicats espagnols. Ce débrayage s'était directement inspiré d'un mouvement similaire qui était apparu en Islande en 1975 lorsque 90% des Islandaises avaient participé à une journée d'arrêt du travail qui avait ouvert la voie à des avancées en matière d'égalité entre femmes et hommes dans tout le pays. En octobre 2023, des milliers de femmes, dont la première ministre islandaise, Katrín Jakobsdóttir, désolée pour la prononciation. Donc toutes ces femmes avaient de nouveau cessé le travail pour demander l'égalité salariale et protester contre les violences faites aux femmes. En France, il y a 5 organisations syndicales et plusieurs associations qui ont appelé elles aussi à la mobilisation le 8 mars, aujourd'hui, y compris notamment à la grève féministe. Alors comment est-ce que vous pouvez faire cette grève? Si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas vraiment faire grève, vous pouvez vous mobiliser d'autres manières. Par exemple, en participant aux marches et manifestations qui sont organisées au cours du week-end partout en France. Vous pouvez rejoindre des appels à la grève féministe aussi. Le droit de grève, c'est un droit qui est protégé normalement par le droit international et qui a une valeur constitutionnelle en France. Bien qu'il soit garanti pour toutes et pour tous, on est conscient évidemment que certains et certaines employeuses pourraient faire planer des menaces sur votre emploi, notamment pour les contrats précaires. Donc il y a plein d'autres choses à faire pour participer quand même au 8 mars et je vous renvoie au site internet d'Action AIDS pour vous renseigner sur comment faire grève le 8 mars. Et vous pouvez aussi aller sur notre site amnestyinternational.fr pour vous renseigner un petit peu sur le sujet. Je vous quitte en vous parlant des femmes afghanes qui sont particulièrement malmenées en ce moment. Il y a une promesse qui a été faite de la part de la ministre des Affaires étrangères effectuée au Forum global pour les réfugiés de décembre 2023 qui concernait les femmes et les filles vulnérables, dont les femmes afghanes, celles qui sont aujourd'hui toujours en attente d'un visa dans les pays voisins de l'Afghanistan. Et ça semble toujours pas voir le jour, les promesses pour aider ces personnes réfugiées à venir en Europe. En 2024, en rejoignant des appels à la grève féministe, nous souhaitons demander donc l'accueil des filles et des femmes afghanes qui ont fui la persécution des talibans pour se réfugier dans des pays limitrophes sans y trouver de protection et sont oubliées par les pays occidentaux, à commencer par la France. Notre président dans Le Monde, le 25 novembre 2024, écrivait, je cite, « La dernière des violences envers les femmes afghanes, c'est l'oubli ». C'est pour lutter donc contre cet oubli que nous vous appelons ce 8 mars 2024 à faire grève pour soutenir les femmes et les filles afghanes qui ont énormément besoin d'aide aujourd'hui. Et je vous renvoie à notre site internet amnestyinternational.fr pour vous renseigner un petit peu plus sur le sujet. Je vous souhaite un bon 8 mars à tous et à toutes et un très bon week-end sur Radio FM+. À la semaine prochaine.